Babel Mpongo à la présentation.
La retenue de 40% des recettes des provinces à la source effective d'ici septembre prochain. C'est ce qui ressort des travaux de la commission paritaire à Kinshasa. Manifestation hier de plus d'une centaine de journalistes à Kinshasa. Ils dénoncent l'assassinat de 4 de leurs confrères en 2 ans, dont Serge Maéché et aux journalistes à Radio Okapi. À Kindu, la SNCC vend depuis mardi ses maisons à ses agents en contrepartie de leurs arriérés de salaire. Bonjour à tous. La retenue des 40% de recettes des provinces à la source peut être effective d'ici septembre prochain. C'est ce qui ressort des travaux de 3 jours de la commission paritaire à Kinshasa. Ces travaux ont réuni, outre les experts du CNUD, les membres des gouvernements provinciaux, du gouvernement central et ceux de la société civile. Il s'agissait de réfléchir sur les modalités pratiques de cette retenue et sur les problèmes éventuels liés à la décentralisation. Pierre Ngandou, conseiller du gouverneur du Kasaï oriental, évoque ici certains mécanismes proposé pour rendre effective cette retenue à la source, au micro de Jacques Matande.
Au niveau de la DGI, nous avons proposé des mécanismes tels que l'émission de 2 notes de perception, que ce soit au niveau de la DGI, que ce soit au niveau des différentes structures de mobilisation de la DGI qui ont été mises en place. Au niveau de l'OFIDA, nous avons proposé également, avec les déclarations, de quelle manière on pouvait obtenir les 40% à la source et les répartir au niveau des provinces qui sont enclavées. Au niveau de l'ordonnancement des dépenses, proposer également la production de 2 notes de perception et la présence d'un ordonnateur ou d'un représentant du gouvernement comme ordonnateur pour pouvoir procéder à la retenue des 40%. Ce sont des propositions qui ont été faites par la commission.
Pour le conseiller du gouverneur de la province du Kasaï oriental, il faudra organiser dans les prochains jours d'autres activités avec des experts pour étudier les aspects du problème non pris en compte par le législateur. Une 20aine de députés du Haut-Uele rejettent le budget provincial de l'année en cours en province orientale. Ils ont exprimé leur point de vue hier mercredi dans un entretien avec la presse. Ces députés estiment que le gouverneur Médard Artsai, qui a déposé ce budget samedi dernier, l'a imposé à l'Assemblée provinciale qui ne l'a pas discuté. L'honorable Norbert Samaki, porte-parole de ce groupement de députés, nous parle des causes de ce rejet.
La procédure n'a pas été respectée par le gouverneur. Le budget a été élaboré à Kinshasa. D'ailleurs, il a déclaré à l'Assemblée, dit voilà, il ne sait plus ce qu'il reviendra faire à l'Assemblée puisque le budget est déjà adopté par l'Assemblée et qu'il est au niveau du Sénat. Ça, c'était seulement un ruse. Selon la Constitution, il fallait que ce budget soit élaboré à Kisangani, déposé à l'Assemblée qui devait l'examiner et puis l'adopter. En l'examinant, nous pouvions faire voir les failles qu'il y a dedans. C'est ça, nous avons trouvé que notre compte n'est pas tenu dans ce budget. Il y a disproportion dans la répartition des fonds pour l'investissement. Et 10% seulement pour les Haut-Uele, sans respecter aussi les priorités de chaque district. Voilà ce qui abat notre réaction.
Le gouverneur de la province orientale dit avoir répondu aux instructions du ministre de l'Intérieur. Il affirme que le président de l'Assemblée provinciale et lui-même ont pris part aux travaux de confection et de mise en application de ce budget à Kinshasa. Médard Aoutchaï.
Moi, je crois que c'est une erreur grave si on accusait l'exécutif provincial d'avoir imposé. L'exécutif provincial a reçu, pendant qu'il était en train de préparer le budget, pendant qu'il s'apprêtait pour aller défendre le budget devant l'Assemblée provinciale, il a reçu message. Le président de l'Assemblée provinciale qui allait conduire la délégation qui prépare le budget pour aller défendre à Kinshasa devant la commission interministérielle, budget, finances, intérieur, économie, etc. Nous avons répondu, le président de l'Assemblée et moi-même, nous avons répondu à cette invitation. On a participé aux travaux d'examen des budgets de toute la province à Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale a activement participé. Nous avons exécuté l'ordre qui était venu de Kinshasa.
Et donc, le budget maintenant va être rediscuté au niveau de l'Assemblée provinciale?
Je ne peux pas répondre à cette question.
Et donc, pour vous, le budget est déjà en application?
J'ai dit bien, je ne réponds pas à cette question.
Pour le président de l'Assemblée provinciale, ce budget doit être discuté et amendé par l'organe délibérant avant son application. Léon Déon Bassango dit avoir mis ce document à la disposition de la commission économique et financière de l'Assemblée provinciale de la province orientale. Celle-ci doit l'examiner avant de le soumettre à la plénière. C'était là un dossier réalisé par José Deschartes Menga. Une dizaine des partis politiques du Nord Kivu demandent la libération de Kambale Malonga. Le président du parti national Mai Mai est porté disparu depuis dimanche dernier. Il a été amené de force par un certain colonel Philémon, sans affectation et non reconnu par l'état-major de la 8e région militaire. Rubin Smikindo, coordinateur de ce collectif des partis politiques du Nord Kivu, appelle les plus hautes instances du pays à s'impliquer pour sa libération.
Au niveau de sa famille, il n'y a pas de nouvelles parce que nous avons pris contact avec les membres de sa famille, les membres de son parti. Jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons aucune nouvelle de M. Kambale Malonga. D'après les informations que nous recueillons ça et là, on nous dit qu'on l'aurait acheminé à Kinshasa. Mais jusque-là, dans tous les cachots de la ville de Goma, dans toutes les prisons, Kambale Malonga n'est pas ici. C'est ça qui nous inquiète un peu. Je crois que là, on veut demander aux instances supérieures, ou si vous voulez, même au président de la République, qui était hier l'allié de Paname, de pouvoir s'impliquer aussi dans la démarche de la libération, parce que là, nous exigeons sa libération, parce que demain, après-demain, ça sera le président, c'est pas moi, de tel ou tel autre parti. Et là, nous, ça nous inquiète, et ça fait que la démocratie au Congo est plus particulièrement à l'est du pays et en panne.
Rubin Smikindo est joint par Georges Kamoudjova. Notez que ce collectif des partis politiques regroupe entre autres le MLC, le RCD et l'UDPS et le MPC. L'insécurité dans certains groupements de Katana au sud Kivu préoccupe son chef de poste d'encadrement administratif. Selon lui, cette insécurité est causée par des bandits à main armée, souvent arrêtés, mais relâchés par la suite. Désiré Balézi Fungulo, chef de poste de Katana, joint par Jean-Baptiste Tonga, estime que seule la lutte contre l'impunité peut amener une solution durable.
Nous sommes en train de mener des démarches pour que nous puissions démanteler les réseaux de tous ces malfaiteurs. Les bandits sont souvent arrêtés par la police et ils sont transférés au niveau de l'officier du ministère public du parquet de Kavumu. À Luhihi, il y a beaucoup de cas de main armée et nous essayons d'arrêter ces gens et nous les envoyons aux autorités compétentes, mais il y a l'impunité qui continue parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui sont arrêtés et souvent ils sont libérés sans pour autant être condamnés pour leurs effets commis.
Au tribunal secondaire de Kavumu, dont dépend juridiquement le poste de Katana, le juge Johnson Fundiko rejette cette accusation. Selon lui, tous les cas portés devant les tribunaux ont été jugés. Une centaine de professionnels des médias ont manifesté hier mercredi à Kinshasa. C'est pour dénoncer l'assassinat de 4 confrères en 2 ans en République démocratique du Congo, des crimes dans lesquels sont impliqués des militaires. Les manifestants sont partis de la place Sosimat à Gombe jusqu'à l'état-major général des FRDC où ils ont lu un mémorandum. René Kapita était avec les professionnels des médias pendant cette manifestation.
Ce sont là les slogans que les journalistes ont scandés cet avant-midi devant le ministre de la Défense qui les a accueillis à l'entrée de l'état-major général des FRDC, point de chute de la manifestation. Pour mettre fin aux assassinats et tracasseries perpétrées contre eux, les hommes des médias ont exigé entre autres des procès justes et équitables, l'indépendance de la justice militaire ou encore la cessation de l'utilisation des FRDC pour des fins privées. Mais avant tout, la présidente de l'UNPC a épinglé l'impunité dont bénéficient les hommes en uniforme, Chantal Kanimbo.
Les hommes sous les drapeaux jouissent d'une impunité scandaleuse chaque fois qu'ils commettent des bavures, non seulement sur la population, mais aussi sur les journalistes en plein exercice de leur travail. C'est cette impunité qui alimente les cycles de la violence. Des affaires de journalistes tués ont connu, au niveau de la justice militaire, des enquêtes partielles, faute de moyens ou à cause des pressions politiques, au point où, à l'issue de procès, si justice a été rendue, la vérité n'a jamais éclaté.
Attentif aux recommandations, le ministre de la Défense a aussitôt réagi.
J'ai pu trouver à travers ces mémos quelque chose de constructif. Personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre être humain, quel qu'il soit. Donc la piste de solution à mon sens, c'est la réforme de l'armée à laquelle nous nous attelons aujourd'hui. Le journalisme, les menaces qui pèsent sur eux, on les a tués. Fort malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de Congolais aussi qui croupissent, n'est-ce pas, dans cette anarchie-là.
Soulignons enfin que le mémorandum des journalistes était principalement adressé au chef d'état-major général des FRDC.
L'ONG Journalistes en danger déplore le fait que les journalistes aient été reçus par le ministre de la Défense à la place du chef d'état-major général. Pour Gilles, le mémo des journalistes devrait être lu devant le chef d'état-major général des FRDC et dans l'enceinte de l'état-major comme prévu. Mais le ministre de la Défense a estimé qu'il n'appartient pas au chef d'état-major de recevoir le mémo, car lui-même reçoit des ordres du ministère de la Défense. Pour Donna Mbaya, président de GED, cet argument est une échappatoire. Explication.
Qu'on interdise aux journalistes d'arriver à l'état-major général de l'armée, prétexte que c'est un lieu inviolable. Je suis désolé, nous sommes dans une démocratie et le bureau de l'état-major de l'armée est un bureau administratif, donc par définition appartenant au public. Donc c'est un faux fouillant qu'on a inventé, mais au moins nous avons fait parvenir notre message. Il y en a marre, on ne doit pas continuer à utiliser les forces combattantes pour tuer des citoyens, on ne doit pas utiliser des forces combattantes pour tuer les journalistes. Nous disons il y en a marre, il faut que cela s'arrête. Il faut que le chef d'état-major puisse encadrer les hommes de troupes pour qu'ils ne soient pas utilisés dans des sales besognes comme celles que nous venons de connaître.
La MONUC fait ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose de façon aussi efficace que possible. Déclaration du porte-parole de la mission onusienne au Congo au cours de la conférence hebdomadaire hier à Kinshasa. Kemal Seyiki réagissait aux propos tenus par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, dans une interview accordée tout récemment à la revue Jeune Afrique. Dans cette interview, Joseph Kabila a critiqué l'action des troupes de la MONUC et se pose lui-même des questions sur la raison de leur présence, surtout dans l'est du pays. Dans ses propos recueillis par Inonsa Olenga, Kemal Seyiki estime que la charge de la défense de l'intégrité territoriale revient en tout premier lieu à l'État.
Nos troupes ont toujours tenu, ont toujours joué leur rôle. Elles l'ont fait avec engagement, ainsi que le démontrent les 35 casques bleus qui ont donné leur vie dans ce pays. Pour ce qui est de leur raison d'être, les populations de Saké, par exemple, n'ont pas ce genre d'interrogation. Les troupes dissidentes de M. Nkunda qui ont essayé de s'emparer de Saké, ceux qui ont survécu, pas d'interrogation non plus quant à la raison d'être des forces de la MONUC dans cette partie du pays. La MONUC fait ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose. Elle essaye de le faire aussi efficacement possible et avec compétence, engagement et sacrifice. Et finalement, je voudrais quand même rappeler que la défense de l'intégrité territoriale d'un pays, d'une nation souveraine, ainsi que de sa population, est la responsabilité première, principale, primordiale, cruciale, incontournable d'un État. Et cela renvoie à la question de la raison d'être de l'État et de son autorité.
C'est finalement aujourd'hui à 15h que prend fin le dépôt des candidatures des mandataires des entreprises publiques. L'opération a débuté il y a de cela 2 semaines. Jusque hier soir, plus de 5000 dossiers ont été déposés au bureau du COPIREP, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, l'organe chargé du recrutement. Mais jusque-là, on n'a pas de précision sur la date de la publication de la liste des mandataires qui seront nommés. La SNCC, Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, vend ses maisons à ses agents à Kindu. Elle compte leur remettre quelques 200 maisons en contrepartie de leurs intérêts de salaire. Gabriel Wamenya revient ici sur les raisons qui poussent la SNCC à vendre et sur les modalités pratiques de cette vente.
Selon la directrice nationale des services généraux de la SNCC qui a fait le déplacement du siège de Lubumbashi, cette mesure pourrait aider la société à résoudre tant soit peu ses graves difficultés de paiement d'arriérés des salaires des agents. Au total, 200 maisons font partie du patrimoine de la compagnie à Kindu, seront remises aux agents qui les habitaient. Ce qui pose problème cependant, c'est que l'effectif des agents est loin supérieur au nombre des maisons disponibles. Écoutons la directrice des services généraux de la SNCC, Madame Béatrice Kaindu.
Quand je dis 200 personnes, pour les maîtrises et cadres, c'est tout ce que vous voyez comme maison sur la ville. Et nous avons des camps des agents, des travailleurs, des agents de maîtrise qui fera que je vais vendre aujourd'hui 200 maisons. Pour essayer d'apurer les arriérés des agents.
La même source indique aussi que cette solution ne règle pas toutes les dettes de la société à l'endroit de ses agents. Pour ceux qui n'auront pas été satisfaits durant cette opération, la compagnie envisagerait bientôt d'autres mesures. Enfin, la directrice des services généraux de la SNCC ajoute que cette opération doit se poursuivre dans l'ensemble du pays, partout où il existe les réseaux SNCC. Gabriel Wamenya, Kindu Radio Okapi.
En dehors de nos frontières, Muammar Kadhafi appelle les Africains à s'unir pour construire un État puissant, un seul gouvernement africain, une seule armée d'un effectif de 2 millions de soldats, une seule monnaie, une identité africaine et un seul passeport. Selon l'AFP qui rapporte l'information, le dirigeant libyen a lancé cet appel hier au cours de sa visite à Abidjan. Et puis la Grande-Bretagne et le Ghana préparent une résolution pour autoriser le financement de la force de maintien de la paix qui sera déployée dans la province soudanaise du Darfour par l'Union africaine et l'ONU, rapporte l'AFP. Selon Emir John Sperry, ambassadeur britannique aux Nations Unies, cette résolution doit en principe être présentée cette semaine au Conseil de sécurité. Voilà, c'est ici que prend fin à ce journal.